Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est le primatologue et biologiste Franz De Waal qui pose cette question dans un ouvrage qui vient de paraître au Lien qui libère. Du crocodile au grand singe et du corbeau au poulpe, chaque animal est capable de complexité cognitive. Conception d'outils, mémoire fulgurante ou stratégie élaborée, les découvertes se succèdent au sujet de l'intelligence des animaux. Franz De Waal est l'invité de la Tête au Carré dans un instant, à l'occasion de son passage à Paris la semaine dernière. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, l'impact des courants océaniques de l'Atlantique sur le climat du futur.
Et oui, des travaux importants publiés aujourd'hui qui montrent qu'on avait peut-être tout faux au sujet du Gulf Stream et des raisons de son ralentissement. Plus d'explications dans un instant à la une.
Émission réalisée par Stéphanie Texier qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'intelligence animale dans le dossier de l'émission avec un invité exceptionnel aujourd'hui, le primatologue et psychologue Franz De Waal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir à l'occasion de votre passage à Paris pour présenter ce nouveau livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» et qui paraît au Lien qui libère. Franz De Waal, on a le sentiment aujourd'hui qu'il est beaucoup plus simple de parler librement des émotions chez les animaux, d'évoquer la culture, l'empathie, l'amitié. Est-ce que, effectivement, les choses se sont décontractées autour de ces thèmes?
Oui, je crois que oui, parce que le siècle dernier, on essayait de simplifier les animaux, on essayait de mettre tout ce qu'ils font dans une des deux boîtes, c'était soit un instinct, soit un apprentissage très simple, et on n'avait pas le droit de regarder autour de ces boîtes-là, c'était seulement ceux deux-là. Et il y avait même un tabou sur les émotions des animaux, la cognition des animaux, on ne pouvait même pas parler. Et les gens qui faisaient, ils étaient complètement ridiculisés. Moi aussi, j'étais ridiculisé quelquefois. Oui. Et maintenant, les derniers 25 ans, je dirais, il y a toute une génération de jeunes scientifiques qui demandent des questions différentes, qui sont pas liées à ces deux boîtes-là, forcément, et qui demandent des questions plus intéressantes. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et maintenant, chaque semaine, on voit dans les nouvelles, on voit de nouvelles découvertes qui s'étaient faites sur les animaux, des choses complètement différentes, d'instincts et des choses comme ça.
Et donc, beaucoup moins de scepticisme autour de la compréhension des animaux. Vous racontez dans votre livre une multitude de découvertes autour de l'intelligence animale et de la cognition. On emploie ce mot précis. On va se retrouver dans un instant, Franz De Waal. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir les messages comme d'habitude.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Quelles conséquences pour le climat avec les courants océaniques de l'Atlantique qui ralentissent? Question à la une de la science.
L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant Atlantique Nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré.
Extrait du film Le jour d'après, sorti en 2004, où dans un futur proche, l'Amérique du Nord et l'Europe se retrouvent sous les glaces à cause de l'arrêt brutal des courants océaniques de l'Atlantique Nord. Eh bien, des travaux publiés jeudi dernier viennent bouleverser complètement les connaissances actuelles de ces flux de chaleur océanique. Et nous en parlons avec vous, Pierrick Penven. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'océanographie physique et spatiale à Brest. Et puis dans ce studio avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire du magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Cette question de l'impact des courants sur le climat, en particulier celui du Gulf Stream, c'est une question très ancienne pour les scientifiques?
De plusieurs décennies, oui, tout à fait, avant ce film calamiteux, peut-être à tous les sens du mot. C'est donc un débat ancien.
Vous ne l'avez pas aimé?
Si, en fait, la présentation en deux phrases était assez exacte, puisque... Pour l'expliquer rapidement, le débat porte sur l'analyse des grands courants océaniques qui parcourent la planète. Ils vont d'un bout de la planète de l'Atlantique vers le Pacifique en un temps qui prend plus de 1000 ans. C'est tout à fait impressionnant. Une branche de ce grand courant océanique planétaire, c'est le Gulf Stream, qui assure à l'Europe occidentale le climat doux que nous connaissons. Mais il y a une trentaine d'années, l'analyse a commencé à se répandre que ce grand courant pourrait se ralentir et que du coup, il refroidirait le climat de notre douce Europe. Ça serait un effet paradoxal du changement climatique, puisque l'explication dominante est que le réchauffement, en provoquant la déglaciation et une hausse des précipitations, accroîtrait le volume d'eau non salée et froide dans ce grand courant et donc le ralentirait. En fait, le débat est intense et le ralentissement d'un d'un courant atlantique, la MOC, s'est effectivement observée depuis 2004, la même année que la sortie du film Le Jour d'après, mais une nouvelle explication tend à s'imposer. Ce n'est pas la variation de salinité et d'eau fraîche qui expliquerait le phénomène, mais la chaleur atmosphérique. Et c'est effectivement tout le sens de ce travail de Catherine Kelly et de ses collègues de l'Université de Washington.
Donc on va essayer d'y voir plus clair, Axel.
Oui, avec vous, Pierre-Yves Penven. Expliquez-nous un peu ce qui est nouveau dans cette analyse des courants océaniques à l'échelle du globe.
Oui, donc le travail là de Madame Kelly, de cette équipe, donc utilise des données issues de satellites et aussi de ces flotteurs qui sont depuis maintenant plusieurs années dans les océans et qui profilent en fait, qui mesurent les propriétés de l'océan. Et donc ils utilisent ces observations pour inverser en fait ce transport de chaleur vers le nord. Donc c'est un flux général qui est pris par plusieurs courants, quoi. C'est pas un seul courant en tant que tel. Et en fait, dans ce papier-là, dans cet article, il montre en fait un lien entre ce transport de chaleur vers le nord, qui est original à l'Atlantique, avec le courant des aiguilles, qui est le courant qui est un peu le Gulf Stream de l'océan Indien, donc qui est le courant de bord ouest de l'océan Indien. Et donc ce courant apporte de l'eau chaude et salée dans le sud, et donc aurait un lien avec ce transport de chaleur vers le nord. Et par contre, alors, ce qu'on ne sait pas dans cet article-là, c'est que si ce lien avec le Gulf Stream est associé plutôt à des forçages qui ont lieu en même temps pour les deux phénomènes, un forçage de vent, parce que voilà, une hypothèse pour ce transport de chaleur vers le nord, il y a ce forçage par le sel, est-ce que le fait que l'eau dans l'Atlantique est très salée et donc en perdant sa chaleur va se mettre à couler en Atlantique Nord et donc forcer ce transport de chaleur. Donc ça, c'est l'hypothèse originale.
Celle qui a été expliquée Hervé Kempf à l'instant.
Voilà, exactement, oui, exactement. Et il y a un autre forçage possible aussi qui a été mis en avant, qui est les vents, le forçage des vents, et particulièrement donc à distance dans l'océan austral, dans les mers du Sud.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne comprend pas bien aujourd'hui ce qui met en marche tout ce moteur océanique ?
Voilà, c'est quelque chose. Voilà, je pense que c'est le message général de ce papier-là.
C'est qu'on ne comprend pas.
Oui, oui. On a d'ailleurs du mal à comprendre peu ici.
On n'est pas très avancé. Oui.
Ce que les chercheurs notent par ailleurs, c'est quand même ce ralentissement là sur les 10 dernières années. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'inquiétant ?
C'est quelque chose qui est très très difficile déjà à observer. Voilà, c'est là si on voit la base de données. Donc il y a eu un effort très important qui a été fait par nos collègues anglais, entre autres, avec cette section à travers l'Atlantique Nord qui mesure ce transport. Donc c'est la section rapide, ce qu'on appelle rapide. Donc depuis maintenant, quelques années. Donc il y a cette mesure de transport. Et donc à très haute résolution. Et en fait, les premiers résultats qui ont été publiés montraient en fait pas de tendance significative issue de ces mesures. Donc il y a une légère baisse actuellement. Mais il faut faire très attention, c'est ce qu'on voit dans les modèles, c'est qu'il y a donc une tendance au ralentissement dans les différents modèles du climat qu'on peut voir dans les différents modèles. Il y a un certain accord à ce niveau-là, mais aussi une variabilité interannuelle importante. Et c'est peut-être ça que l'on voit ici.
Hervé Kempf, qui fronce les sourcils. Hein.
Oui, mais ça, c'est vraiment un travail de recherche en train de se faire. Donc c'est normal que ce soit compliqué. Est-ce que, pour simplifier, vous pourriez nous dire quand même, est-ce que l'évolution, c'est vers un refroidissement sur l'Europe occidentale ? Est-ce que cette hypothèse reste pertinente ?
Ouais. Et vous soulignez le paradoxe, hein, finalement, du réchauffement climatique qui entraînerait un refroidissement dans cette zone du monde. Pierre-Yves Penven.
C'est pas tout à fait mon domaine de recherche, mais des expériences. Donc il y a beaucoup d'expériences que des gens font au niveau des modèles climatiques en reproduisant donc une possible apport d'eau douce dans le nord. Voilà, c'est ça le moteur qui assurerait en fait un ralentissement de cette circulation de ce transfert de chaleur vers le nord, de cette AMOC. se relier donc à l'apport d'eau douce venant des glaciers. Et donc différents modèles testent ce genre de choses actuellement, mais c'est difficile, quelque chose de très difficile à observer en effet.
Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sera pas un refroidissement, mais un réchauffement moins rapide, si c'est cette hypothèse qui venait à se réaliser.
C'est possible.
Qu'est-ce qu'on retient de cette étude finalement, Pierrick Penven ? Beaucoup de prudence ?
Voilà, oui. Je pense que et des liens avec d'autres systèmes aussi. Tout ne se passe pas dans l'Atlantique Nord. Donc il y a un grand l'océan est vaste avec par exemple l'océan Austral forcé par ces vents d'ouest et que les choses sont connectées et que c'est un système très complexe et très non linéaire aussi. Et donc on peut pas faire de conclusion. Il faut ça hâtive quoi là-dessus.
Surtout avec le climat qui demande évidemment beaucoup de recul. Merci beaucoup Pierrick Penven pour vos explications. Et puis Hervé, on retrouve ce sujet sur les pages de reporter.net. Vous allez nous faire quand même un article.
On est sûr d'être clair.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le commerce illégal de grands singes vivants pourrait être bien plus important que ce que l'on pensait. Selon la BBC, qui a repris les données de la Convention internationale sur la vente des espèces menacées, 1800 individus auraient été saisis par les autorités depuis 2005, ce qui est bien plus que le chiffre officiel de quelques centaines seulement. L'origine de cette différence est une erreur humaine sur les comptages des saisies, notamment en Afrique de l'Ouest, en Indonésie et en Malaisie. La BBC estime donc à plusieurs milliers le nombre de singes vivants vendus chaque année. Certains hommes nés d'insémination artificielle ICSI pourraient souffrir de problèmes de fertilité. Cette étude parue dans la revue Human Reproduction montre que de nombreux jeunes hommes nés dans les années 90 par injection intracytoplasmique de sperme pourraient souffrir des mêmes troubles que leur père, avec un sperme pauvre en spermatozoïdes et de mauvaise qualité. Sans que cette explication soit parfaitement démontrée, le passage des troubles à leurs enfants malgré la FIV est aujourd'hui la seule hypothèse que trouvent les chercheurs pour expliquer que plus de 50% des jeunes hommes de cette étude nés par ICSI souffrent de problèmes de fertilité. Et si des premiers explorateurs de Mars arrivaient sur place complètement déments, eh bien la question est posée cette semaine dans une étude originale menée chez la souris et qui montre que l'exposition répétée et prolongée aux rayons cosmiques affecte fortement le cerveau. Ces particules de haute énergie sont suspectées de favoriser les pertes de mémoire et la démence. C'est une mauvaise nouvelle pour les astronautes qui partiront pour un voyage de 3 ans vers Mars, précise Charles Limondi qui dirige cette étude et qui explique que les protections devront être largement améliorées et testées sur Terre avant tout projet de voyage martien. Allez, l'éthologue, primatologue Franz de Waal est notre invité dans un instant. To say I love you, but you didn't hear me. Gemini Feed avec Banks sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Frans De Waal, notre invité donc cet après-midi à l'occasion de la sortie en France de votre nouveau livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» ouvrage qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent, livre sorti au mois d'avril aux États-Unis, oui, hein, oui, vous travaillez au centre de primatologie d'Atlanta. Est-ce que culturellement, l'approche des Américains ou des Français est à peu près la même sur justement le comportement animal ?
Alors moi, je crois que c'est un peu différent parce que d'abord, les Américains, ils ont plutôt accepté le darwinisme plus, même si on entend le contraire. On entend qu'il y a les créationnistes, mais en fait, les Américains, en général, ils acceptent l'évolution et les connexions avec les animaux plus que les Français, je crois.
Ah oui, tiens.
Oui.
Alors ça, vous me
surprenez
en disant ça.
Les Français, ils avaient la marque. Hein,
oui.
Et ils sont toujours encore un peu frustrés que Darwin a gagné. Et les Français, une culture latine aussi, un peu une attitude différente aux animaux, je crois.
Oui.
Mais maintenant.
C'est-à-dire, non mais elle est plus loin, Frans De Waal, c'est-à-dire.
Les animaux, ils sont pour manger surtout.
Oui.
Chaque animal est jugé par comment il faut le préparer.
Hein.
Oui. Oui. Et ça, c'est une attitude qu'on trouve moins dans les États-Unis. Ils mangent aussi de la viande, c'est pas ça. Mais ils ont une attitude différente. Mais je sens que en Europe, les choses sont en train de bouger aussi.
Ouais.
Et que l'attitude que les animaux sont des mécanismes qui viennent de Descartes, dans un sens, hein, monsieur Descartes, qui est français, mais aussi hollandais, il habite à Amsterdam, que cette attitude est en train de disparaître lentement.
Il faut du temps quand même. Hein.
Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de scientifiques qui pensent un animal, c'est un stimulus response machine, et maintenant, comme j'ai dit, il y a toutes sortes de jeunes scientifiques qui ne pensent plus comme ça.
Ouais. Alors on va parler d'éthologie animale, évidemment, avec vous, mais on pourrait aussi faire une petite parenthèse américaine sur de l'éthologie humaine. Vous avez de beaux animaux politiques en ce moment à observer, Frans De Waal. Je pense évidemment à Donald Trump et Hillary Clinton. Est-ce que quand on a l'œil observateur qui est le vôtre sur les animaux, on s'amuse beaucoup à observer aussi les comportements des hommes politiques?
Oui, mon activité favorite, c'est d'enlever le son. Comme ça, je ne peux pas entendre qu'ils se disent, parce que le langage humain, c'est très intéressant, mais c'est des traits aussi des observations. Alors, c'est mieux de ne pas entendre qu'est-ce qu'ils disent et juste observer. Et c'est intéressant, quand Trump était contre les 17 républicains candidats, c'était presque tous des mâles. Il savait quoi faire. Il était imposant, il changeait son voix, il était comme un mâle chimpanzé dans un sens.
Ouais.
Et il est tous battu. Hein. Et là, maintenant, son adversaire, c'est une femelle de son âge. Une femelle alpha, et il ne sait plus quoi faire. Il est sorti perdu.
Une femelle dominante aussi, hein?
Oui, oui. Il sait bien, très bien interrompre Hillary Clinton, mais c'est presque tout ce qu'il fait. Il ne peut pas faire d'autres choses.
Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors, à votre avis, entre les deux, à l'occasion de ce parcours présidentiel?
Il y a une différence entre l'espoir peut-être et la réalité. Mon espoir, c'est qu'il va perdre big time, comme on dit en anglais, qu'il va perdre, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe.
On verra ça et on pensera également aux observations faites sur les animaux peut-être pour imaginer ce qui peut se passer. Pourquoi l'homme a autant de difficultés à se mettre dans la tête des autres espèces, Frans De Waal? On l'évoquait un peu tout à l'heure, le processus a été extrêmement long et quand il y parvient, il a tendance à faire de l'anthropomorphisme en plus.
Oui, on a tendance de juger les animaux sur les qualités que nous on a. Alors on est très impressionné par des projets de langage, on est très impressionné par le projet de technologie, ou utiliser des outils. Mais dès que les animaux font des choses complètement différentes, par exemple l'écholocation qu'on trouve chez le dauphin et chez les chauves-souris, on n'est pas tellement impressionné par ça, on trouve ça pas tellement relevant. Et même si c'est très complexe, si on demande à un ingénieur comment dessiner un système de radar d'un avion, c'est un peu ça que les chauves-souris font. C'est extrêmement complexe, alors c'est une cognition qu'ils ont. Mais nous, ça c'est écolocation, c'est rien pour nous. Alors on juge les animaux sur le sujet que nous on trouve important. Et moi, j'ai dit dans le livre, c'est mieux de prendre l'autre approche et on regarde les animaux dans leur milieu, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut qu'ils font dans leur milieu pour résoudre leurs problèmes dans l'environnement. Et comme ça, on voit qu'un éléphant, c'est une créature complètement différente de nous et a besoin d'une intelligence complètement différente de nous.
Ouais. Et il faut essayer de se mettre dans la peau de ces animaux alors quand on les étudie, c'est-à-dire essayer d'être une chauve-souris ou un éléphant?
Oui, il faut s'imaginer dans leur situation et comme ça on comprend mieux quel genre de problème ils envisagent. Et par exemple pour l'éléphant, on a toujours pensé que le tronc d'un éléphant c'est un peu comme un bras et une main et un bras. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils étaient testés jusqu'à le moment qu'ils ont trouvé qu'un éléphant n'aime pas tellement fermer son tronc en prenant une branche ou quelque chose parce que quand il ferme son tronc, il ne peut plus sentir. Et l'olfaction est partie. Et c'est comme ça qu'ils ont appris que pour un éléphant, le tronc n'est pas un bras.
Oui, la trompe de l'éléphant, donc effectivement assez fascinant. Vous aviez un professeur dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, qui lui avait beaucoup étudié les chauves-souris, c'est ça, Franz de Waal?
Oui, c'est Donald Griffin qui a découvert que les chauves-souris s'orientent avec l'écholocation, mais aussi ils peuvent dans une salle comme ça, ici, quand toutes les lumières sont parties, ils peuvent trouver une mouche et prendre la mouche. C'est un truc très complexe.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler de l'intelligence animale pour toutes les espèces, au fond?
Oui, je crois qu'il y a des intelligences en pluralité. Il y a toutes sortes d'intelligences. Je ne vois pas ça comme une échelle, une dimension où il y a l'homme et les dieux, sans doute. Oui. Le dieu, l'homme, est suivi par toutes les autres espèces. Je vois ça plutôt comme une brouche où les branches vont dans toutes les directions. Il y a des spécialisations partout. Mm-hmm. Et les corbeaux peuvent être très intelligents dans leur domaine et nous, on peut être très, très intelligents dans notre domaine.
Ouais, les corbeaux, vous les citez pas par hasard parce que vous les avez beaucoup étudiés. Vous aviez un couple de jeunes corbeaux, c'est ça?
Moi, j'avais des jeunes choucas.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. Ouais. Quand j'étais étudiant, j'avais des choucas et c'est des oiseaux très intelligents.
Oui. Ouais. Et comment vous les avez étudiés alors? Parce que vous parlez d'une sorte d'échec d'ailleurs dans votre méthodologie autour de ces choucas au départ. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, il y a toutes sortes d'échecs dans le sens. Il y a toutes sortes de tests qui étaient faits sur les animaux où on dit ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. Et on trouve plus tard, avec des méthodes différentes, qu'en fait, ils peuvent. Par exemple, il y a aussi des études sur le corbeau, les jays, comment dire, c'est une petite sorte de corbeau, où ils ont fait des expériences. Est-ce qu'ils cachent leur nourriture pour les autres quand les autres peuvent le voir ou pas voir? Oui, il y a toutes sortes de ce genre d'expériences. Et en fait, la conclusion que les théories d'esprit est limité à l'homme, complètement disparu maintenant.
Alors, les découvertes sont nombreuses, effectivement, au fil des publications. Par exemple, vous citez l'exemple des éléphants. Pendant très longtemps, on a pensé qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser des outils.
Mm-hmm.
Et ça, c'est assez récent comme découverte.
Oui, oui. Ça qu'ils ont fait, ils mettent un fruit dehors du cage des éléphants, il lui donne une branche. Et normalement, si ça serait un singe, bien sûr, le singe prend la branche et il va atteindre la banane. Mais l'éléphant ne faisait rien. Et là, ils ont fait une expérience où ils mettent des fruits très hauts. L'éléphant ne peut pas aller si haut, mais ils lui donnent des boîtes en bois.
Oui.
Et ils mettent ça très loin, et l'éléphant va chercher la boîte, il amène la boîte sous l'endroit où la nourriture est, et il se met dessus avec ses pattes devant. Et comme ça, il peut atteindre le fruit. Et là, ils ont compris que l'éléphant est très bien capable d'utiliser des outils, comme la boîte, mais il ne veut pas fermer son tronc pour prendre une branche. Et ça, c'est tout sur le sujet de mon livre, c'est la méthodologie doit être adaptée au animal. Et si on ne fait pas ça, on peut avoir des conclusions complètement fausses.
Les éléphants très doués également devant un miroir, comme on l'entend dans cet extrait.
Les éléphants se déplacent d'avant en arrière devant la glace, comme s'ils se demandaient « Pourquoi celui-là fait-il exactement pareil que moi ?» Puis, ils finissent par comprendre et adoptent un comportement que nous qualifions d'autocentré.
Ce test classique consiste à marquer l'éléphant à un endroit de son corps qu'il ne peut voir que grâce au miroir. Essaiera-t-il d'éloigner la marque sur son propre corps ou bien sur la silhouette qu'il a en face de lui? Jusqu'à présent, seuls des singes anthropoïdes, des dauphins et des pies ont réussi le test. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Joshua Plotnik, on sait que les éléphants aussi se reconnaissent dans la glace.
Alors ça, c'est une découverte très importante, Franz de Waal, parce qu'il y a derrière, évidemment, cette expérience, la conscience de l'animal qu'il a de lui-même.
Ouais. Josh Plotnik, c'est un étudiant à moi. Ouais. On a fait ça ensemble, d'abord à New York et après à Thaïlande. Et on a fait ça surtout parce que moi, je suis intéressé dans l'empathie. Et il y a certaines théories de l'empathie qui disent que dès qu'on a un sens plus fort de soi-même, on peut être plus empathique avec d'autres. Mmh. C'est très intéressant comme théorie. Et c'est pour ça qu'on avait pensé, mais les éléphants sont très empathiques, ils sont très altruistes. Et peut-être ils peuvent aussi passer ce test-là. Mmh. Mais les éléphants étaient testés avant avec des petits miroirs. Alors, si tu mets un petit miroir devant un éléphant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir beaucoup de gris qui bougent dans le miroir. Et ils n'ont pas réagi à ça. Et ils avaient conclu que l'éléphant manque un sens de soi-même. Et nous, on a fait la recherche avec des miroirs beaucoup plus grands, qui peuvent sentir derrière aussi. Ils avaient accès complet à ça. Et c'est toujours la méthodologie est tellement importante. Comment on demande les questions, comment on adresse les questions dans la méthodologie, c'est très important. Et c'est pour ça que tout est en train de bouger en ce moment, parce qu'il y a des scientifiques qui trouvent de nouveaux moyens, sont plus créatifs.
Sur le chemin donc, de l'intelligence animale, ce livre au lien qui libère. Et Franz de Waal, vous êtes notre invité dans La Tête au Carré.
Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit, mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit, mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour.
Je crois que une de ses caractéristiques essentielles, c'est de replacer toujours l'animal dans ses conditions naturelles.
Oui, c'est vrai. Le comportement des animaux, le système nerveux, est un des systèmes des plus compliqués qu'il est dans le monde. Et en approchant un système, on ne peut pas isoler arbitrairement un par et l'étudier isolément. On ne peut pas faire ça.
Et il faut avoir une vue générale de l'individu.
Il faut avoir une vue générale d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas isoler et expérimenter plus tard. Mais le commencement de l'étude d'un comportement d'une espèce, c'est toujours l'étude de l'organisme et son comportement entier dans l'environnement naturel.
Franz De Waal, vous êtes notre invité cet après-midi. La voix à l'instant de Konrad Lorenz, biologiste, zoologiste, prix Nobel également en éthologie, ce qui est assez rare, qui est décédé en 1989. Autrichien qui vous a beaucoup marqué. C'était vraiment un homme d'influence, en tout cas, pour votre discipline.
Ça ne veut même pas qu'il parlait français.
Ouais, vous avez vu ça, c'est un beau document.
Lui, il était très important, bien sûr. Nico Tinbergen et Konrad Lorenz étaient le fondateur de l'éthologie. Et lui, il dit que il faut regarder tout l'animal, il faut connaître tout l'animal, c'est très important.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de fautes qui étaient faites dans la recherche des animaux, où on isole une certaine chose, où on n'a pas un bon jugement de tout l'animal. Un exemple, c'est qu'ils ont testé des chats dans certaines boîtes qui pouvaient sortir des boîtes. En touchant avec leur corps une certaine...
Vous le racontez dans le livre, oui.
Oui, un certain morceau de bois qui était dans la botte. Et ils n'avaient même pas remarqué que les chats étaient en train de faire ça par gentillesse, par l'expérimentateur. Parce que les chats, quand on entre à la maison, si on a des chats, ils font souvent ça. Ils mettent leur corps contre tes jambes, contre le siège de cuisine ou je sais pas quoi. Et les scientifiques, ils n'avaient pas noté que le chat était en train de faire un comportement de greeting,
D'accueil.
D'accueil, oui, ouais. C'est ça.
Alors justement, vous parlez des chats, les animaux domestiques, parce que Konrad Lorenz a étudié les animaux sauvages, mais également les animaux domestiques, ils ont été un petit peu mis sur le côté quand même. Les chiens, par exemple, n'ont pas été étudiés pendant très longtemps. C'est quand même étonnant ça, non?
Pendant très longtemps, on trouvait que les animaux domestiques étaient compromisés par l'homme. Ils étaient modifiés par l'homme.
C'est pas faux.
Faux,
non?
Il faut faire des études des animaux sauvages comme de loups, de corbeaux, je sais pas quoi. Et maintenant, on est très intéressé dans les chiens parce qu'en fait, le chien est très facile à tester parce que le chien est tellement... Il adore faire des choses avec les humains ou pour les humains. Et en fait, ils sont idéaux. Si par exemple, on fait des recherches d'empathie, qu'est-ce que c'est mieux qu'un chien dans un sens? Parce qu'on peut faire des tests, les mêmes tests avec les enfants. Par exemple, avec les enfants, dans la famille, on demande à un membre de famille de pleurer. Et on regarde qu'est-ce que les jeunes enfants, par exemple, un enfant de 2 ans veut approcher et toucher, essayer de calmer la personne qui pleure.
Oui.
Les chiens, ils font exactement la même chose. Et maintenant, on fait beaucoup de recherches d'empathie chez les animaux et les chiens sont très importants dans ce genre de recherche.
Et ce sont les rares animaux qui sont capables de rester calmes, ce qui est très utile quand on veut les passer dans un scanner, par exemple.
Oui, on fait ça maintenant à Emory University. On fait ça, on a un scanner dans le bâtiment où je travaille. Et on est en train d'entraîner des chiens se mettre là-dedans et on leur demande des questions. On leur montre des choses qu'ils peuvent manger. On voit quelle partie de leur cerveau sont allumées.
S'active, et ils sont très coopérants, visiblement.
Oui.
On écoute justement, là aussi, l'extrait d'un document sur le travail des chiens.
L'éthologue autrichien Ludwig Huber et son équipe réalisent le test suivant. Sur un écran tactile, Tony doit distinguer des expressions de joie et de colère. Un exercice difficile pour le chien, car on ne lui montre qu'une partie du visage humain qu'il doit compléter tout seul. Pour les chercheurs, cela prouverait que Tony n'a pas simplement appris les expressions de visage par cœur, mais qu'il les comprend.
Nous avons cherché à savoir comment le chien comprend l'homme et ce qu'il comprend chez nous. Si les chiens savent interpréter les émotions humaines, comme la tristesse, la joie, la colère, cela veut dire que ces émotions peuvent se transmettre au chien. Il réagit aux émotions, il les partage, et par ce mécanisme, il comprend l'état émotionnel de l'homme.
Franz De Waal, une proximité donc autour des émotions homme-chien,
Ça oui, aussi. Ça c'est le voix de Ludwig Huber qui fait ce genre de recherche à Vienne. Et ça un peu bizarre, bien sûr, parce que on est en train de tester un chien sur discriminer visuellement les expressions humaines. Mais je pense que les chiens sont encore beaucoup mieux dans les choses olfaction. Mm-hmm. Et bien sûr, on cherche toujours à tester les animaux sur les choses que nous, on trouve importantes, comme les expressions faciales.
Ouais.
Mais il y a d'autres façons pour un chien de savoir est-ce qu'on est en colère ou pas en colère.
Oh, il y a une petite critique là, hein, dans ce que j'entends.
Oui, hein. Oui, c'est anthropocentrique de tester.
Alors justement,
la science sur le visage.
Oui, c'est ça. Oui. Justement, il y a un risque d'anthropomorphisme ou pas, précisément, dans votre travail d'éthologue? Parce que vous êtes assez mesuré quand même là-dessus.
Oui, oui. Il y a le risque, mais je dirais, avec des espèces très similaires à nous, comme d'autres primates.
Les primates, oui.
Le risque est en fait moins grand. Dans le sens que si moi je chatouille, par exemple, un jeune chimpanzé.
Il va rire.
Oui, il va rire.
Il va y mettre des sons, en tout cas.
Il fait un certain son. Il va rire, il va essayer d'échapper, mais revenir et tout ça. Et comme les enfants. Et moi, je trouve d'appeler ça rire, c'est pas mauvais, forcément.
Oui.
Parce que je pense que les espèces qui sont très près de nous, s'ils font le même comportement dans les mêmes circonstances, il faut assumer que leur psychologie derrière ça, mm-hmm. les émotions derrière ça sont très pareilles aussi.
Mm-hmm.
Mais si on va d'espèces plus distantes, comme par exemple les oiseaux ou les insectes ou les poissons, ça devient plus compliqué de faire ce genre d'assumption. Oui.
Est-ce que vous avez vu des épinoches rire quand vous étiez petit, par exemple dans vos aquariums, Franz Deval?
Non.
Ils ces font petits pas, poissons. Hein,
ils ne font vous pas avez... tellement ça. Ils font d'autres choses qui sont intéressantes, mais ils ne font pas ça.
Ouais, c'est eux qui vous ont mis un peu le pied à l'étrier quand même, hein, qui vous ont donné envie d'aller plus loin sur le comportement animal?
Oui, j'ai commencé à collectionner comme enfant des animaux aquatiques, des grenouilles, des poissons, des choses comme ça, et essayer de les reproduire. Je trouvais ça très intéressant.
Ah, vous aviez déjà une démarche scientifique alors.
Hein. Oui, ouais, oui, 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 oui. Et après ça, j'avais des oiseaux, des souris, des chats. Et après ça, bien sûr, je suis devenu biologue.
C'est ça. Biologiste. Et vos parents ont dû être ravis d'ailleurs que vous consacriez votre temps vraiment à avoir ce métier-là autour des animaux, non? Parce qu'ils étaient nombreux chez vous quand même, toutes ces.
C'était une grande famille et moi j'étais le seul en fait qui était intéressé dans des animaux, c'est bizarre.
Ouais, ouais.
Mais j'étais le seul qui avait cette passion-là, qui venait de ma mère sans doute, parce qu'elle avait ça aussi. Et c'est ma mère qui m'a poussé de faire des études de biologie parce que j'avais un professeur de biologie tellement mauvais et méchant à l'école que j'avais décidé que je ne devenais pas un biologiste.
Ouais, il aurait pu vous dégoûter,
oui. Oui, et quand j'ai pris la décision, ma mère disait, mais non, il faut que tu fasses des recherches de biologie parce que tu as toujours eu des animaux.
Mmh. Franz Deval, vous parlez de cognition évolutive. C'est une autre façon de parler de l'intelligence animale.
Oui.
Qu'est-ce que vous y mettez de plus alors dans ce terme alors?
Oui, de voir la cognition et l'intelligence animale comme une adaptation à leur environnement, au lieu de parler de intelligence comme il y a seulement une intelligence. Je parle d'intelligences. Il y a beaucoup de sortes d'intelligence. Il y a certains animaux qui sont très spécialisés. Il y a certains oiseaux par exemple qui peuvent mémoriser la location de 10 000 grains qu'ils ont cachés et qu'ils retrouvent dans le printemps. Il y a des autres animaux qui ont de très grands cerveaux, comme les éléphants, les humains, qui ont plutôt une intelligence généralisée, qui peuvent résoudre beaucoup de sortes de problèmes. Mais il y a toutes sortes d'intelligences dans le monde.
Chez le poulpe, par exemple, on peut parler d'une intelligence externalisée, au fond?
Oui, c'est distribué. Il y a beaucoup de neurones dans leur cerveau. Les cerveaux sont très grands pour le poulpe, mais il y a aussi beaucoup de neurones sur leurs bras.
C'est ça.
C'est comme un intranet dans un sens. Et comment on peut... La question, par exemple, les gens demandent qui est le plus intelligent. Est-ce que moi, je suis plus intelligent qu'un poulpe? Ce n'est pas une question que je trouve intéressante. C'est impossible de répondre à cette question-là.
Parce que l'intelligence du poulpe, elle est complètement différente.
Complètement
anatomiquement différente.
Oui.
Franz Deval, vous êtes avec nous cet après-midi à l'occasion de la sortie de ce livre. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est au lien qui libère et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cet entretien.
times I've woken up and prayed for the rain. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers abortion the blame? Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lads have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun.
Stranglers, always the sun.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et Franz Deval, encore pendant quelques minutes avec nous pour ce livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux, au lien qui libère ?» On parlait tout à l'heure des poulpes et des pieuvres. Il y a des comportements qui sont quand même très très étonnants. C'est-à-dire que la pieuvre, lorsqu'elle se sent menacée, est capable de le manifester clairement face à un humain ?
Oui, mais... Oui, avec les humains, ils reconnaissent même des humains. Ils ont testé ça. Même des humains qui ont la même couleur de vêtements, ils connaissent le visage. Alors, il y a une personne, par exemple, qui leur tape sur la tête et une autre qui leur donne la nourriture. Et après un certain temps, après quelques jours, ils reconnaissent l'un et l'autre, et proches l'un et pas l'autre, et tout ça.
Alors, vous parlez de la coopération aussi. Ça, c'est une forme d'intelligence, hein, savoir réunir ses forces pour faire face à l'adversité ou pour mener quelques combats.
Oui, on fait beaucoup de recherches là-dessus parce que une des choses qu'on dit sur l'homme, c'est que l'homme est capable de supprimer les compétitions pour faire mieux la coopération.
Oui.
Et nous, on a testé ça avec les chimpanzés. On a testé les chimpanzés dans une tâche de coopération où toutes les autres étaient présents. Alors, tout le groupe de 20 chimpanzés était là. Il y avait plein de chances de faire beaucoup de compétitions. En fait, ils étaient assez compétitifs au début, mais ils ont réussi à supprimer leur compétition et la coopération a gagné. Ouais. Et on fait ce genre d'expérience.
Ouais. Alors, chez les orques, on va l'entendre dans le sujet qui va suivre, il y a aussi des possibilités de coopération. Vous allez voir dans quel but.
Les orques vivent en famille. Elles travaillent ensemble à perfectionner leur stratégie de chasse implacable. Les orques se nourrissent d'autres cétacés. Et celles-ci ont repéré un petit rorqual. Les orques cernent rapidement leur cible. Le petit rorqual finit par fatiguer. Et les orques passent à l'offensive. Elles unissent leurs forces pour faire basculer l'animal. Si elles parviennent à maintenir son évent sous l'eau, il finira par se noyer. Une orque bloque son corps entier sous la surface, tandis qu'une autre porte le coup fatal. tout le groupe maintient sous l'eau son corps sans vie. Et les orques peuvent enfin se nourrir.
Voilà, Franz Deval. Un exemple, hein, parmi tant d'autres.
Oui, ils sont très coordonnés. Il y a une communication là qu'on ne comprend pas complètement, parce qu'ils sont extrêmement coordonnés, plus que le singe, plus que l'homme, en fait.
Oui.
On ne sait pas exactement comment ils font.
On a des hypothèses, en tout cas, sur...
C'est sans doute une communication, une vocalisation sous l'eau. C'est presque sûr que c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, nous, on ne sait pas.
Oui. Alors, il y a plein d'exemples passionnants. Alors, sur des animaux plus inattendus, parce que c'est vrai que vous parlez évidemment de vos primates chéris, mais il n'y a pas que. L'intelligence des moutons, c'est plus surprenant.
Oui, on a fait des recherches sur la reconnaissance des visages.
Ouais.
Et nous, on a commencé avec les chimpanzés parce que les gens, encore, la même chose, ils avaient conclu que seulement l'homme est capable de reconnaître le visage. Et parce qu'ils avaient testé les chimpanzés avec des visages sur un écran d'ordinateur, le visage humain. Le chimpanzé n'était pas très bien là-dedans. Et dans mon groupe de recherche, on avait décidé, peut-être il faut remplacer le visage humain par le visage chimpanzé.
Mm-hmm.
Et c'est ça qu'on a fait. Et ils étaient excellents. Les chimpanzés sont excellents à reconnaître le visage de leur propre espèce. Après ça, on a fait des recherches sur le petit singe. Et après ça, sont venus les moutons.
Mmh.
Et après le mouton, et en fait, les guêpes sont venues.
Ah oui,
et
les guêpes sont capables de reconnaître les visages.
Certaines espèces qui vivent dans le petit groupe c'est un avantage de reconnaître qui est la reine et tout ça.
Ouais.
Et ça montre encore que l'intelligence dépend un peu de ton environnement et ton natural history, parce que autrement il y a d'autres guêpes qui peuvent rien faire avec le visage, mais cette espèce là qui a besoin de ça a cette connaissance. Avec le mouton, ils ont testé le mouton. Pour nous, le mouton, ils sont tous pareils, on voit vraiment pas de différence.
Non, c'est vrai,
mais eux, ils sont capables de reconnaître 25 visages comme ça.
Ouais. Et chez les alligators, il y a des choses amusantes aussi, hein. Ça, c'est très drôle quand même.
Oui, ça, c'est un truc d'utiliser des outils. Bien sûr, la recherche avec les outils a commencé avec les chimpanzés, le orang-outan, tout ça. Après sont venus les petits singes, après sont venus les corbeaux. Mais maintenant, on a l'utilisation des outils chez les pulpes, mais aussi chez les alligators. Et eux, ils balancent une petite branche sur leur nez. Et ils nagent vers un groupe des oiseaux qui est en train de construire des nids, comme les hérons, qui ont besoin de branches. Et bien sûr, il y a une branche qui flotte dans l'eau pour eux, et ils approchent, et comme ça, ils sont pris par l'alligator.
Self-service pour se nourrir. On peut parler du langage chez les oiseaux, Franz Deval?
Le langage, moi je vois le langage symbolique, comme nous on a, je vois comme très spécial. On trouve ça pas tellement chez les animaux, on trouve des petits morceaux peut-être, des petites tendances et des petites capacités, mais pas tout le truc de langage. Mais bien sûr, chez l'oiseau et beaucoup d'autres animaux, il y a une communication très, très avancée.
Mmh.
Ils peuvent communiquer beaucoup de sortes d'informations l'un vers l'autre. Oui.
Il y a des perroquets qui ont des capacités quand même étonnantes. Vous citez Alex, le perroquet.
Alex était très important parce que il a montré pas forcément la capacité de langage, mais puisqu'il pouvait parler et dire des choses, on pouvait le tester sur des concepts. Et on pouvait montrer, par exemple, 5 objets. Imagine qu'il y a 4 qui sont verts, il y a une qui est bleue. On dit lequel est différent. Et Alex va dire bleu. Ou tu peux le faire toucher certains objets. On peut demander quel matériel. Il va dire du bois. Il va dire métal. Il avait des concepts comme ça, et on a toujours pensé que ce genre de concept, on a besoin de langage pour faire ça, mais lui, il fait ça sans ça. Et toute cette idée qu'on a besoin de langage pour avoir une intelligence avancée est en train de tomber en ce moment. Le langage humain est très important pour communiquer des pensées, mais c'est pas comme on pense.
Ouais. Non. Franz Deval, qu'est-ce qui se passe à Atlanta? Alors, dans votre centre de primatologie, il y a une centaine de personnes, de scientifiques, hein, qui sont dans ce centre. Ça fait combien de chimpanzés, à peu près?
Les chimpanzés, on a peut-être 60 en ce moment, ouais. Mais on a des centaines de primates, là, et ouais. On a beaucoup de scientifiques, oui.
Ouais. Comment vous travaillez au quotidien? Vous dites, c'est important de créer une atmosphère détendue en se montrant ferme et amicaux avec les primates.
Ça, c'est surtout avec les chimpanzés qu'on ouais. a besoin de ça. Moi, je travaille dehors de la ville, où il y a un centre d'or, et on a beaucoup de chimpanzés qui vivent dans l'herbe, en fait.
Ouais.
Et moi, je peux pas leur forcer dans une expérience. J'ouvre la porte, j'appelle leur nom, et s'ils veulent venir, ils viennent. S'ils veulent pas venir, ils viennent pas.
Mm-hmm.
Et quand ils sont entrés dans le bâtiment où on fait le test, on essaie de les calmer, de parler, jouer, épouiller, donner un peu de nourriture. Comme les enfants, on fait comme pour qu'ils sont contents et calmes. Et seulement après ça, on fait notre expérience.
Ouais. Donc vous êtes au contact direct des animaux?
Non, les chimpanzés sont assez dangereux.
Ouais. Hein.
Un chimpanzé est beaucoup plus fort que l'homme.
Mm-hmm.
Un chimpanzé mâle a 5 fois plus de force dans son bras qu'un mâle humain. Alors, on ne peut pas aller dedans parce que c'est trop risqué.
C'est ça. Même pour ouais. vous qui les connaissez parfaitement?
Il y a des chimpanzés là que je connais depuis qu'ils sont des bébés.
C'est ça.
Et ils sont très gentils avec moi. Moi, je ne veux pas dire qu'ils vont dedans. C'est un peu comme un tigre. Hein. On peut,
c'est ça.
On peut jouer avec un tigre par les comment dire? Par les grillages, mais on ne va pas dedans. Hein.
Donc le danger des chimpanzés. Quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez bien répondre encore autour de ces animaux? Vous connaissez quand même très très bien maintenant. Quelle est la grande question autour des primates, par exemple, à laquelle on aimerait bien avoir une réponse?
Moi, je suis très intéressé dans les émotions.
Ouais.
Et mon prochain livre, sans doute,
très
je viendrai ici.
Ah ben, je compte sur vous. Ouais.
Mais il faut que je l'écris encore. Mais je pense que les émotions, c'est le sujet, c'est les frontières qui viennent pour la recherche sur les animaux.
Et sur les primates, donc, vous testez ça en ce moment?
Oui, on fait beaucoup de tests de sens de justice, d'empathie, de coopération, attachement, tout ça, oui.
Ouais. Il y a le sens de la justice chez le chimpanzé capable de vous broyer le bras, Franz Deval?
Nous, on fait des recherches, par exemple, on donne des récompenses différentes à deux singes qui font la même tâche, et si un reçoit des choses beaucoup mieux que l'autre, hein, l'autre va être un peu en colère, hein.
Ouais.
Et c'est aussi comme ça qu'on teste le sens de justice chez les enfants, oui.
Où est-ce que vous avez appris le français, Franz Deval?
Ma femme est française.
Ah ben voilà, c'est une bonne raison.
Elle vient de Maine-et-Loire.
Elle vous parle en français?
Non, à la maison, on parle hollandais et français.
Ah, ça doit être un joli
mélange. Pas beaucoup d'anglais. On habite en Amérique, mais on parle français et hollandais. J'ai dit toujours pour rigoler qu'on utilise le français pour la cuisine et tout ça. Et dès que les choses deviennent complexes et avancées intellectuelles, on parle hollandais. C'est pour insulter le français que je dis ça.
C'est pas très gentil de terminer là-dessus, hein, franchement. Je sais pas si je vais vous réinviter pour votre prochain livre sur les émotions. Il faudra vous rattraper d'ici là. Merci, Franz Deval. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci d'être venu dans La Tête au Carré.
De rien.
À bientôt. Et un autre primate m'a rejoint dans ce studio, Fabrice Drouel.
Bonjour. Donc.
C'est pas une injure, vous êtes un
c'est
primate comme nous tous d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai, vu comme ça, oui, tout à fait. Bonjour.
Affaire sensible. Bonjour Fabrice.
Alors, affaire sensible aujourd'hui, le procès d'O.J. Simpson, qui fut au-delà d'un procès, une véritable saga américaine, une affaire américaine, 9 mois de procès en 95. Il était accusé d'avoir tué 2 personnes. Nous en parlerons avec Sylvie Laurent, notre invitée. Elle est historienne, spécialiste de la question afro-américaine.
Eh bien, tout à l'heure, merci.